Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Plusieurs partis d'opposition forment une coalition en Côte d'Ivoire. Le Niger est confronté à une pénurie d'essence. Aide internationale, 83% des programmes de l'agence USAID vont être supprimés. Négociations sur la trêve à Gaza, une délégation israélienne est à Doha aujourd'hui. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, plusieurs partis d'opposition majeurs ont annoncé la formation d'une coalition pour exiger des réformes électorales avant la présidentielle d'octobre prochain. Mais ils n'ont pas encore décidé de présenter un candidat unique. Nanit Talani.
En tout, 25 formations d'opposition ont signé leur adhésion à une charte pour former la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger, a déclaré Tidiane Thiam, désigné coordonnateur de cette coalition. Unis, nous serons plus forts. Apprêtez-vous à nous voir agir ensemble, a lancé Madame Eyvé Gbagbo, porte-parole de la coalition. Parmi les signataires, le PDCI de Tidiane Thiam, le MGC de l'ex-première dame Simone Eyvé Gbagbo, le FPI de Pascal Afinguessan ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. Le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas encore rejoint la coalition. La CAPCI appelle notamment les autorités à organiser, avant la présidentielle du 25 octobre, un dialogue politique pour réviser les listes électorales et réformer la commission électorale indépendante qu'il juge trop dépendante du pouvoir. La question d'une éventuelle candidature unique de l'opposition à la présidentielle n'a pas été évoquée.
Le Niger est confronté depuis le début du mois à une pénurie inédite de l'essence super, la plus utilisée dans cet État sahélien. Le pays, qui produit du pétrole mais en raffine peu, avait déjà connu des pénuries de carburant mais qui n'ont jamais atteint cette ampleur. Yacouba Ouédraogo.
L'unique raffinerie du Niger, la Soraz, n'arrive plus à satisfaire la demande intérieure qui a explosé depuis plus d'un an, affirme la Société nigérienne des produits pétroliers. En cause, entre autres, l'assèchement du florissant marché noir alimenté à partir du Nigeria voisin. En 2023, les prix y ont triplé après la suppression des subventions sur l'essence par le gouvernement. Le carburant qui arrivait frauduleusement du Nigeria représentait jusqu'à 50% des parts du marché et alimentait les grandes régions proches du Nigeria comme Zindé, Maradi, Taoua et Dosso, explique le directeur commercial de la SONIDEP, Mazou Oumani Aboubakar. Depuis 2011, le Niger produit quelque 20 000 barils d'essence et gasoil raffinés par jour. Il a arrêté ses exportations l'année dernière. La raffinerie du pays ne fournit à la SONIDEP que 25 camions citernes d'essence par jour, quand les besoins quotidiens nationaux atteignent jusqu'à 50 camions citernes, précise Aboubakar. Les baisses des prix du carburant récemment décidées par le régime militaire ont aussi dopé la consommation nationale, selon les syndicats.
En déplacement au Burkina Faso, le président ghanéen John Dramani Mahama termine sa tournée des pays de l'AES aujourd'hui. Hier, le Niger et le Ghana ont affirmé à Niamey leur volonté de dynamiser leur coopération bilatérale et de combattre le terrorisme au Sahel. John Dramani Mahama a entamé samedi à Bamako une tournée des trois pays sahéliens alliés, Mali, Niger, Burkina, pour tenter de les convaincre de renouer avec la CEDEAO qu'ils ont quittée fin janvier. En Gambie, un ancien général, le membre présumé d'un escadron de la mort sous l'ex-dictateur Yahya Jammeh, est placé en détention depuis août 2024 et décédé hier en détention suite à des problèmes de santé. C'est ce qu'a annoncé l'armée gambienne. Près de 400 000 Soudanais sont rentrés chez eux près de 3 mois après avoir été déplacés par la guerre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les paramilitaires des FSR et l'armée régulière. Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. Trois journalistes tchadiens accusés d'intelligence avec le groupe paramilitaire russe Wagner ont été écroués à N'Djamena dans l'attente de leur procès prévu jeudi, a-t-on appris auprès du procureur de la République et d'un de leurs avocats. Ils sont inculpés pour intelligence avec l'ennemi, attentat contre les institutions et complot, selon un de leurs avocats. Un des reporters est accusé d'avoir traduit des documents fournis par la Russie sur les opérations de ses supplétifs au Mali et sur la situation économique du Sahel. Un autre a été interpellé suite à un article sur l'inauguration de la maison russe de N'Djamena en septembre dernier. En République démocratique du Congo, des responsables du parti de l'ancien président, Joseph Kabila, ont été invités à comparaître devant un procureur militaire ce lundi. Leur avocat Jean Mbuyu, également ancien conseiller en sécurité de Joseph Kabila, a déclaré que la raison exacte de ces convocations n'était pas claire. L'actuel président, Félix Tshisekedi, a récemment accusé Joseph Kabila de parrainer les rebelles du M23 qui se sont emparés des deux plus grandes villes de l'est du Congo depuis janvier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé la suppression de 83% des programmes de l'USAID, une agence clé de l'aide humanitaire mondiale, pour des raisons d'inefficacité et de coûts élevés. Cette décision s'inscrit dans la politique du président Donald Trump qui a gelé l'aide étrangère dès son retour à la Maison-Blanche. Plus de précisions avec Jean-Roger Bion.
Après un examen de 6 semaines, nous supprimons officiellement 83% des programmes de l'USAID, a écrit sur X le chef de la diplomatie américaine, évoquant des dizaines de milliards de dollars dépensés inutilement, sans chiffrage plus précis. En accord avec le Congrès, nous souhaitons que les 18% de programmes conservés, environ 1000, soient désormais gérés plus efficacement par le département d'État, a-t-il ajouté. Plusieurs organisations à travers le monde affirment déjà subir les conséquences du gel de l'aide humanitaire américaine, que ce soit pour la lutte contre le sida en Afrique du Sud ou au Kenya, ou les soupes populaires au Soudan, pays ravagé par la guerre. Sans une action urgente, sans financement, plus d'enfants vont souffrir de malnutrition, moins auront accès à l'éducation et les maladies évitables feront plus de victimes, a alerté l'Agence de l'ONU pour les enfants, UNICEF.
L'Ukraine va proposer une trêve dans les airs et en mer avec la Russie. C'est ce qu'a indiqué un haut responsable ukrainien. Le secrétaire d'État Marco Rubio a dit juger prometteuse cette proposition ukrainienne de cesser le feu. Une délégation israélienne est à Doha pour des négociations indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec le Hamas après la coupure par Israël de l'approvisionnement en électricité pour faire pression sur le mouvement islamiste palestinien. Alexandrine Holonion.
La délégation israélienne à Doha est menée par un haut responsable de la sécurité intérieure et le médiateur chargé des otages. Les discussions doivent porter sur les moyens de maintenir la trêve et de trouver un accord pour la libération des 58 personnes toujours retenues en otage dans le territoire palestinien. Les désaccords sur la poursuite de la trêve portent sur la deuxième phase de l'accord qui prévoit, selon le Hamas, un cessez-le-feu permanent, le retrait complet israélien de Gaza et la libération des otages. Israël, de son côté, souhaite une extension de la première phase du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril et réclame, pour passer à la deuxième, la démilitarisation totale du territoire, le départ du Hamas du territoire palestinien qu'il dirige depuis 2007 et le retour des derniers otages. Avancé pour parler, l'unique ligne électrique avec Gaza qui alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire a été débranchée par Israël. Le Hamas a aussitôt dénoncé un chantage mesquin et inacceptable.
Le Hamas a dénoncé ce lundi le maintien des troupes israéliennes dans le couloir de Philadelphie, une zone tampon le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, affirmant que le retrait aurait déjà dû avoir lieu selon l'accord de trêve. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Dépendant du marché congolais pour leur commerce, des chauffeurs routiers exportateurs rwandais affirment être durement impactés par le conflit dans l'est de la RDC voisine où le groupe armé M23, soutenu par Kigali, s'est emparé de vastes territoires. Certains chauffeurs habitués aux routes entre le Rwanda et Goma-Bukavu ont désormais trop peur de traverser vers la RDC. Les conducteurs y sont attaqués par des habitants en colère contre le Rwanda. « Je ne peux pas risquer ma vie ou perdre mon camion. » Nous avons eu des cas de camions brûlés et de chauffeurs attaqués, témoigne Olivier Mouniemana, un chauffeur rwandais. Au Nigeria, la Commission des crimes économiques FCC a récupéré près de 500 millions de dollars issus du crime en 2024, avec plus de 4000 condamnations pénales dans sa lutte contre la corruption persistante. Abuja a utilisé une partie de cet argent pour financer des projets gouvernementaux. L'FCC a également saisi 931 052 tonnes de produits pétroliers, 975 biens immobiliers et des actions de société. Pour terminer, en Égypte, l'inflation annuelle des prix à la consommation urbaine a chuté à 12,8% en février contre 24% en janvier, selon des données de l'agence de statistiques CAPMAS. C'est un ralentissement plus rapide que prévu. Les analystes s'attendaient à une inflation de 14,5%.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Football à la une et en coulisses d'abord, la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF se tiendra ce mercredi au Caire.
Oui, les présidents des 54 associations membres et des unions zonales vont renouveler le comité exécutif de la CAF et les représentations au sein du conseil de la FIFA. Pas d'enjeu pour le poste de président de l'instance dirigeante du ballon rond africain, car le président sortant, Patrice Motsepe, est seul candidat à sa propre succession. Mais avant cette assemblée générale extraordinaire, la CAF mène plusieurs activités qui ont commencé ce lundi avec la réunion des unions zonales, puis demain celle du comité exécutif, avant les élections mercredi matin, pour conclure dans l'après-midi par une conférence de presse officielle.
Sur le terrain, on connaît les finalistes du deuxième tour des barrages du championnat d'Afrique des Nations.
Les matchs retour du premier tour ont livré leur verdict. L'Afrique du Sud a remporté le choc contre l'Égypte 3-1 après le match nul 1-0 à l'aller. Au dernier tour, les Bafana locaux vont affronter le Malawi deux fois vainqueur des Comores. L'autre affiche de cette ultime étape mettra aux prises la Gambie qui a écarté le Gabon au tir au but à l'Algérie. À noter que les vainqueurs de ces deux rencontres rejoindront le groupe C du CHAN composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée.
Chez les dames, les matchs allés du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans se sont disputés ce week-end.
Hier, la Zambie a fait un grand pas vers la qualification en allant battre 3-0 la Tanzanie, tout comme le Burundi victorieux en Côte d'Ivoire 3-1. Le Bénin aussi a fait le plein de confiance après son succès 2-0 face à la RDC. Pour les autres résultats, victoire en déplacement du Nigeria et du Kenya respectivement 3-1 en Afrique du Sud et 2-0 en Ouganda. Le Cameroun rassure à la maison en infligeant un 5-2 à l'Éthiopie, 2-1 en faveur du Botswana qui recevait l'Algérie, 2-2 entre la Sierra Leone et la Guinée.
Basketball ici en NBA, Alexander plus fort que Jokic.
Shai Gilgeous-Alexander a remporté son duel contre Nikola Jokic avec 40 points qui ont permis à Oklahoma City de dominer les Denver Nuggets 127-103. En face, Jokic a été contenu à 24 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Dans la bataille à l'ouest, Minnesota reste sur les talons de Golden State grâce à sa victoire contre San Antonio 141-124. Memphis a arraché la victoire contre la Nouvelle-Orléans 107-104. Les Grizzlies occupent la quatrième place de la conférence avec 40 victoires et 24 défaites. Les Phoenix Suns se sont imposés sur le parquet des Dallas Mavericks 125-116 avec 24 points de Devin Booker. Leader à l'Est et première équipe qualifiée pour les playoffs, les Cleveland Cavaliers se sont imposés sur le parquet des Milwaukee Bucks 112-100.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Togo, l'état d'urgence sécuritaire vient d'être prorogé de 12 mois dans la région des savanes frontalières avec le Burkina Faso, en proie à des attaques terroristes depuis quelques années. Si les autorités reconnaissent que la situation demeure préoccupante dans la zone, l'attitude des populations locales, soupçonnées de complicité avec les terroristes, inquiète. De Lomé, notre correspondant, Kossi Wousou.
Les dernières attaques d'octobre 2024 dans la région des savanes sont encore vivaces dans les mémoires des officiels togolais qui luttent contre les groupes armés qui font régulièrement des incursions meurtrières dans la zone. Selon Odabalo Awate, ministre de l'administration territoriale, les autorités sont déterminées à gagner cette guerre contre les terroristes.
La persistance de la menace terroriste marquée par les tentatives d'incursion sur notre territoire, en exemple les dernières attaques sanglantes et meurtrières des 1er et 25 octobre 2024, commandent la poursuite de la lutte afin que les citoyennes et citoyens du Togo puissent vaquer librement à leurs occupations.
Pour ce faire, le gouvernement a sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale la prorogation de l'état d'urgence qui devait s'achever le 12 mars prochain. Ceci pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'adapter leur riposte à l'évolution de la menace des groupes armés. Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Oui, la menace persiste. Malgré les efforts du gouvernement, la situation reste fragile et nécessite un soutien continu de nos forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur le terrain.
L'attitude des populations locales soupçonnées de commercer avec les terroristes est dénoncée par Kanfitine Sankoubine, un élu de la région.
Moi, je viens de la préfecture de Koungheul-Ouest et nous vivons des difficultés énormes parce qu'il y a des complicités. Malgré qu'on interdise aux gens de faire des déplacements vers la zone rouge, les gens y vont et après des enquêtes, on a constaté que ce sont ces gens-là qui vont donner des informations à l'ennemi. C'est des gens qui vont vendre de l'essence, le maïs, l'huile, etc. Qui font aggraver la menace.
En appliquant l'état d'urgence dans la région des savanes, la députée de l'opposition, Kafui Adjamagbo-Johnson, demande aux forces de l'ordre et de sécurité de ne pas brimer les droits élémentaires des citoyens qui y vivent.
Il nous est revenu malheureusement que l'état d'urgence a entraîné des arrestations arbitraires dans les préfectures de Koungheul-Ouest, Sinkassé, Koungheul. On a fait mention aussi de torture et de mauvais traitements. Et tout ça nous inquiète.
Admettant quelques restrictions imposées aux populations, le ministre des Droits de l'Homme a balayé du revers de la main ces allégations. Paco Madjourouvi a indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme et le comité international de la Croix-Rouge sont présents sur le terrain et veillent au grain. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. Au Kenya, le président William Ruto a signé ce week-end un accord de coopération politique avec son ancien rival Raila Odinga. Le président Ruto cherche ainsi à revigorer sa présidence après des mois de crise. Plus de précisions avec Lionel Gaïma.
Il y a encore quelques semaines, il se voyait au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Battu par le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, l'opposant historique kényan Raila Odinga a décidé de conclure un accord politique avec son ancien rival, le président William Ruto. Raila Odinga, chef de l'opposition kényane.
Par ce protocole d'accord, nous nous engageons à faire respecter la Constitution, l'état des droits et les droits de l'homme. Fait important, nous nous engageons à nous attaquer au chômage, au coût de la vie, à la pauvreté écrasante, aux inégalités et à l'échec des institutions qui ont été érodées par l'inefficacité et la corruption au fil de ces décennies, les rendant incapables de répondre aux besoins des Kenyans.
Pour le président William Ruto, ce protocole d'accord est signé non pas dans l'intérêt de deux signataires, mais dans l'intérêt supérieur du pays.
Ce moment n'est pas celui de William Ruto ou de Raila Odinga. Cet accord, ce protocole d'accord, ne concerne pas le partage des positions ou la victoire aux élections, mais il concerne le peuple et les intérêts du Kenya.
Selon certains observateurs, la signature de cet accord est aussi un coup politique pour le président William Ruto, dont la popularité s'est émoussée lorsque des projets et des nouvelles taxes ont déclenché des manifestations de masse de la jeunesse l'an dernier, durant lesquelles au moins 60 personnes ont été tuées, d'après des organisations de défense des droits humains. Le mouvement de protestation a plongé le gouvernement de M. Ruto dans une crise depuis l'année dernière.
We undertake this commitment with the understanding.
Nous prenons cet engagement en sachant que si nos partis politiques peuvent avoir des stratégies différentes, nous partageons un objectif commun, construire un Kenya uni, sûr et prospère, sous un gouvernement capable, engagé et désireux d'assurer l'abondance et l'opportunité pour tous sans exception.
La prochaine élection présidentielle kényane aura lieu en 2027. Raila Odinga, 80 ans, cinq fois candidat malheureux, pourrait ne pas avoir l'énergie nécessaire pour se jeter dans la bataille. Ce qui ferait les affaires de son désormais partenaire politique, William Ruto, 58 ans, si ce dernier décide de briguer un second mandat.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Nous braquons les projecteurs sur la guerre civile qui déchire le Soudan depuis près de 3 ans. Les combats opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont plongé le pays dans une spirale de violence inouïe. Les chiffres sont accablants, des dizaines de milliers de morts et plus de 12 millions de déplacés. Quelles sont les voies possibles vers une résolution pacifique ? L'implication étrangère retarde-t-elle toute perspective de paix ? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Première fois, des femmes ont pris part au combat du tournoi annuel de lutte de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a eu lieu la semaine dernière à Abuja et s'est achevé samedi, date de la Journée internationale des droits des femmes. Compte rendu, Jean-Roger Bion.
Pour la première fois, des lutteuses participent au tournoi africain de lutte de la CEDEAO, dont la 13e édition s'est déroulée au stade national MCO Abiola à Abuja, la capitale du Nigeria. Elles se félicitent des progrès réalisés. Céline Bakayoko, lutteuse ivoirienne de 33 ans, devenue professionnelle en 2019.
Je suis vraiment contente parce que depuis de la première édition à la 12e édition, il n'y avait pas de femmes. Et ça nous fait plaisir parce que les femmes savent lutter. Il fallait juste qu'on nous donne notre chance. Eux-mêmes, ils ont vu que le combat des dames et le combat des hommes, il n'y avait pratiquement pas de différence parce que les femmes luttaient autant bien que les hommes.
Le tournoi a rassemblé des lutteurs et lutteuses de 11 États membres de la CEDEAO et le tournoi fait partie de la célébration du 50e anniversaire de l'organisation. Jocelyne Assama Asante, lutteuse ghanéenne, estime que les femmes ont tiré leur épingle du jeu.
This tournament has taught me to be,
Ce tournoi m'a appris à être patiente, à endurer, parce que la lutte elle-même exige d'être capable d'endurer pour pouvoir gagner.
La lutte traditionnelle en Afrique de l'Ouest, pratiquée principalement par des hommes au physique parfois proche de celui des sumo, est un sport populaire à travers la région, des stades vibrants du Sénégal aux villages désertiques du Niger. Bien que le tournoi constitue une avancée pour les femmes de la région pratiquant ce sport dominé par les hommes, d'autres progrès sont à faire selon les lutteuses. Yvonne Ami, lutteuse, vient de Côte d'Ivoire.
Bon, c'est déjà un grand pas et puis c'est un honneur pour nous les femmes d'abord d'avoir participé à ce tournoi parce que c'est la première fois et ça met l'ouverture sur l'égalité des sexes, hommes et femmes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir.
Le Niger, champion de l'année dernière et cette année le grand absent des combats, tout comme le Mali et le Burkina Faso, ces trois pays ont quitté la CEDEAO en début d'année après plusieurs années de relations tendues avec l'organisation régionale.
Que les négociations de paix menées par les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont récemment connu des revers. Des pourparlers entre Washington et Kiev devraient avoir lieu cette semaine en Arabie Saoudite. Davantage avec Veronica Balderas Iglesias, récit Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu dimanche à Jeddah en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec une délégation ukrainienne. Le but, selon une déclaration officielle, est de, je cite, « faire avancer l'objectif du président Donald Trump de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine ». Cette visite intervient quelques jours après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé au président Trump une lettre conciliante à la suite de la rencontre tendue que les deux dirigeants ont eue à la Maison-Blanche le 28 février. Trump a commenté vendredi l'état des négociations de paix.
Je pense que nous nous en sortons très bien avec la Russie. Mais en ce moment, ils bombardent l'Ukraine. Je trouve qu'il est plus difficile, franchement, de traiter avec l'Ukraine et ils n'ont pas les cartes en main.
Il s'agit d'une forme de pression pour amener les parties à la table des négociations. Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine et l'échange de renseignements avec Kiev, tout en menaçant d'imposer des sanctions et des droits de douane à la Russie. La conclusion d'un accord est importante pour Trump d'un point de vue politique, notent les analystes. William Pomeranz est chercheur à l'Institut Kenan.
Il a parié essentiellement sur une sorte d'accord sous sa présidence. Et je ne sais pas, il y a tellement d'acteurs en mouvement pour ces négociations, que ce soit la Russie, l'Ukraine, l'UE.
Les pourparlers entre les États-Unis et l'Ukraine à Jeddah devraient durer jusqu'au 12 mars. À l'approche, les soutiens de l'Ukraine se sont rassemblés samedi à Washington. Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes dénonçaient une série d'attaques russes au cours du week-end contre des cibles ukrainiennes à Donetsk, entre autres régions.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région. La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique. All I ever wanted was a black grand national, being rational, giving what they asked for. It's not enough. Few solid left, but it's not enough. Few that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Huh. I get on it. Yeah, somebody gotta do it. I mean, yeah, somebody gotta do it. I tell the G pass. Watching do it. Huh. We survived outside, all from the music. What? They like, what he on? This the Alpha and Omega. Welcome home. This is not a song. This is a revelation. How to get a gone. Teach you a man, baby. I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction. That's the plan, baby. Don't put your life in his weird hands, baby. It's not enough. Few solid left, but it's not enough. Few that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on it. Yeah, somebody gotta do it. I mean, man. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G pass. Watch.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.